Bonjour à tous, merci d'écouter Fréquence Mistral, une émission spéciale dans le cadre de l'édition 2020 des correspondances de Manosque, animée par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et oui, deuxième émission dans le cadre du Festival des correspondances de Manosque. Et vous allez voir, dans cette émission, il y aura beaucoup d'humour et beaucoup de fantaisie et évidemment de la profondeur comme d'habitude. Le festival a démarré hier sous d'excellents auspices avec du monde qui était venu écouter Enki Bilal. Et puis il se poursuit jusqu'à dimanche avec beaucoup d'informations et beaucoup d'événements littéraires bien sûr, mais aussi musicaux, artistiques, etc. Donc ne ratez pas les correspondances de Manosque et ne ratez pas non plus l'émission de Fréquence Mistral. Et puis, lors de l'inauguration des correspondances, c'était bien sûr l'heure des discours avec les personnes qui, tout simplement, permettent à ce festival d'exister, autrement dit les financeurs et les financeurs publics, en l'occurrence l'agglomération Durance-Luberon-Verdon et bien sûr la ville de Manosque. Je vous propose tout de suite d'écouter le nouveau maire de Manosque, Camille Galtier, et le nouveau président aussi de la DLVA, Jean-Christophe Pétrini. On se retrouve tout de suite après. Camille Galtier, vous êtes le maire de Manosque et les correspondances ont lieu et évidemment vous êtes soulagé.
On est heureux que ce festival ait lieu parce qu'on a mis tout en œuvre depuis près de 2 mois pour que les conditions soient réunies afin que ce festival puisse vivre, puisse continuer. Quand on voit l'ensemble des festivals, l'ensemble des animations ou événements qui sont annulés de partout en France, on peut se dire que nous, on est un peu les irréductibles gaulois. On est content et partagé avec Jean-Christophe Pétrini, le président de la DLVA, pour que ce festival ait lieu et que les manosquins et l'ensemble de la population du territoire puissent en profiter.
Et puis Manosque est une ville culturelle aussi avec l'emblème Jean Giono qui sera fêté aussi cette année pendant le festival.
Manosque est une ville littéraire évidemment, est une ville de la culture et on le voit même avec les journalistes puisque je sais que tu es un fanatique de la culture et je suis très heureux qu'au niveau littéraire, mais c'est pas que ça, c'est aussi la Fondation Carzou, c'est aussi le Centre Giono, c'est aussi le Paraïs. On a quand même à Manosque un vecteur vers la culture qui est assez important et il faut continuer à le développer.
À vos côtés, et c'est aussi un soutien important du festival, Jean-Christophe Pétrini de la DLVA. C'est un phare quelque part, le Festival des Correspondances dans la DLVA.
C'est devenu un phare. Au départ, le festival a 22 ans. Il est né bien entendu ici à Manosque. Mais il a fallu que le soutien d'abord de la commune. Et ensuite, lorsque les communautés de communes se sont formées et la prise de compétences culturelles prise, il a fallu continuer à soutenir. Et le travail qui est fait est tellement excellent. On voit la notoriété qu'il y a. Ça permet à la ville de Manosque aussi d'être connue nationalement. Et ça permet, nous, communauté d'agglomération, de continuer à soutenir la culture, de la porter. Et pourquoi pas permettre ce genre de manifestation, peut-être sur un autre domaine culturel, et créer quelque chose sur une autre commune qui permettrait de développer la culture sur l'ensemble du territoire.
Évidemment, l'édition 2020 est marquée par la crise sanitaire. Vous allez parler de résistance, ça on a l'habitude, mais aussi de résilience.
Oui, je crois que c'est un thème fort. Camille l'a dit en préambule dans son discours. On a tout mis en place, la ville de Manosque, la communauté d'agglomération, pour résister. Être le plus résilient possible. C'est souvent le cas hein, lorsqu'il y a des situations très compliquées que le pays traverse, où la culture est partie prenante pour justement dire voilà, on continue à vivre, on continue à exister. Et la culture est là aujourd'hui, la lecture et l'écriture nous permet d'être résilients et on va faire tout en sorte pour que ce festival puisse se passer dans les meilleures des conditions.
Camille Galtier et Jean-Christophe Pétrini, autrement dit les subventionneurs publics et les soutiens importants du Festival des Correspondances. Et puis de manière traditionnelle, pendant le festival, on passe la parole au directeur des Correspondances qui nous donne le programme de cette journée. On va écouter Olivier Chaudançon. Olivier Chaudançon, c'est parti pour le Festival 2020.
Oui, et c'est parti pour le Labo de l'édition, aujourd'hui à 11h, les éditions du Chemin de Fer qui partagent leurs manuscrits avec les membres du comité de lecture. Mais c'est cet après-midi que les choses vont se déployer de façon plus ample. À 14h30, nos siestes acoustiques et littéraires, un rituel à Manosque, autour de Bastien Lallemand, Babix, Albin de la Simone, J.P. Nataf, ça c'est une surprise, il nous a rejoint en dernière minute, et puis des écrivains qui vont lire en alternance avec les chansons. À 16h30, on a le choix entre trois rencontres avec Pascal Diby, un ethnologue qui va nous parler du bureau, le meuble. Ça a l'air aride comme ça, mais vous verrez que c'est absolument passionnant. Ou alors, on peut retrouver notre ancien résident François Beaune qui sera en dialogue avec Éric Laurent. Chacun dresse le portrait d'une jeune femme contemporaine. Et puis, on peut aussi se tourner vers Clémentine Mélois, autrice, plasticienne, qui a signé le visuel des correspondances de cette année et qui va nous dire son rapport à la littérature à travers son très beau livre « Dehors la tempête ». À 18h, on peut retrouver Thierry Benstengel, magnifique livre qui s'appelle « Yougoslave », qui retrace toute sa généalogie familiale en partant de 1791, la mort de Mozart, pour revenir à nos jours, et nous fait à travers cela le portrait de l'Europe centrale, ces pays qui ont été sans cesse bouleversés, passant d'une influence à l'autre, changeant de frontières. Voilà, c'est l'histoire européenne qu'il nous raconte. Nous avons également Arnaud Bertina qui va dialoguer avec Claro, ou encore à 18h, Mathilde Forget, notre résidente, ancienne résidente, puisque ça se termine, mais elle va nous faire entendre en avant-première son prochain livre, écrit à Manosque évidemment. En soirée, on retrouve François Morel, que le public des correspondances connaît bien et que tout le monde connaît bien au fond, qui va nous faire découvrir les lettres de Boris Vian. C'est le centenaire de Boris Vian cette année, sa correspondance vient d'être publiée, elle est passionnante, elle est drôle, elle est diverse, elle est touchante. François Morel lira, accompagné au piano par Antoine Salaire.
Olivier Chaudançon qui présentait le programme de la journée. Retour en plateau en direct et nous accueillons notre premier invité en direct, notre ami Jacques Ménie, le président de l'association des Amis de Jean Giono. Bonjour Jacques.
Bonjour François.
Avec cette année, une année très particulière, Jean Giono nous a quittés, voilà, 50 ans.
50 ans dans quelques jours, oui.
Oui,
avec 9 octobre.
Avec d'ailleurs une cérémonie particulière au cimetière à Manosque. Jacques, on en parle tout de suite.
On lui rendra hommage le 9 octobre au cimetière. La ville va poser enfin une plaque à l'entrée du cimetière pour
J'aime
indiquer
bien ça, enfin.
Où est sa tombe. Bah oui, 50 ans après, c'est pas trop tôt. où est la tombe, qui est très facile à trouver puisqu'elle est à l'entrée, sauf que comme elle est en hauteur, on ne voit absolument aucun nom. Et donc, bon, voilà, on nous a souvent posé la question, et donc là, c'est réglé. On va inaugurer cette plaque. Ce sera très simple, juste deux textes et du violoncelle. Voilà.
C'est bien, ça va être une belle cérémonie.
On va faire dans la sobriété.
C'est parfait. Jacques, traditionnellement, dans le Festival des Correspondances, Giono a une place, évidemment, et c'est le cas aussi cette année, forcément.
Oui, alors nous, on a une place depuis déjà pas mal d'années, avec une lecture de correspondances qui est devenue très suivie par le public, qui aura lieu dimanche matin. Donc, à l'occasion du cinquantenaire, j'ai fait un montage de lettres de Giono qui raconte sa vie, en quelque sorte. Évidemment, des épisodes, en tout cas, mais son parcours, en tout cas, je crois, est bien lisible dans ce choix de lettres, uniquement de Giono à des correspondants. Et qui commence par... Alors, des lettres inédites, d'ailleurs, que j'ai retrouvées dans des kilos de photocopies que des gens nous envoient régulièrement en disant « Ah, on a retrouvé !» ou « Dans la famille, il y avait cette lettre de Giono. » Il y en a parfois d'excellentes, de passionnantes, de drôles. En particulier, une sur laquelle je commence la lecture et qui est un journaliste ou un éditeur qui lui demande des renseignements biographiques. Il écrit « Il est né le 30 mars 1895 et il n'est pas encore mort. » Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire.
Voilà. Ce qui est la vérité, enfin, à l'époque. À l'époque. Jacques, outre cette lecture, il y a d'autres événements, et notamment sur les scènes du théâtre Jean Lebleu, mais aussi au cinéma.
Oui, alors c'est la journée de samedi, ça va être surtout le week-end qui va être gionnain. Samedi matin, donc au cinéma, à 11h, en avant-première, puisque le film passe le 8 octobre sur France 3, donc le documentaire de Fabrice Gardel, Giono, une âme forte, qui est un documentaire biographique. Il n'y a pas eu de documentaire sur Giono depuis 25 ans, puis celui que j'avais fait pour le centenaire de sa naissance pour Arte. Et donc, un quart de siècle après, Gardel a fait un très beau film sur la vie de Giono.
Voilà. Et qui sera diffusé sur la télévision publique.
Oui, le 8, ouais. Le 8 octobre, le jour même, puisqu'il est mort dans la nuit du 8 au 9. Hein, donc, voilà.
C'est bien, il y a un autre spectacle également.
Et puis il y a un spectacle que je n'ai pas vu, qui a été donné au Mucem cet été d'ailleurs, créé au Mucem, c'est Le bruit du blé de Gaël Faure, qui est un spectacle à la fois de lecture, texte, danse et musique.
Donc ça aussi
C'est à Jean Le Bleu, samedi à 22h30, oui, dans la grande salle.
Dans le cadre des correspondances, il y a aussi des sorties régulières qui sont organisées par le Centre Giono.
Il y a les expositions, hein, en particulier la très belle exposition sur le tournage du Hussard sur le toit, les photos de Anne Sylvester qui est à la Fondation Carzou, qui est vraiment une très belle exposition.
À voir.
Et puis l'exposition permanente du Centre Giono avec un focus auquel j'ai collaboré sur le Hussard sur le toit, puisque vous pouvez voir la totalité des manuscrits du cycle du Hussard, de Angelo au Bonheur fou, en passant par le Hussard sur le toit et Mort d'un personnage. Ils sont tous exposés, comme ils l'étaient au Mucem, et ils sont tous exposés là dans l'exposition permanente du Centre Jean Giono.
Alors, vous avez parlé de Hans Sylvester. On rappelle que j'ai eu le bonheur d'interviewer Hans, qui nous a raconté sa première rencontre avec Jean Giono. On va pas dévoiler tout ça, mais allez sur le site de Fréquence Mistral, vous tapez Hans Sylvester, vous aurez ces confidences particulières d'un jeune homme débarquant au Paraïs pour demander à un grand écrivain de faire la préface d'un livre, un livre qui a marqué, qui s'appelle Camargue.
C'est pour lui que Giono a écrit ce très beau texte qui s'appelle Camargue et qui a été édité ensuite en complément de Edmond de chez Gallimard. Oui, c'est vraiment un texte qu'il a écrit pour Sylvester. C'était le premier livre de Hans et
ça a lancé sa carrière. Tout à fait, on l'a dit en même temps, oui. Jacques. Merci Jacques, on sait que vous êtes très occupé dans le cadre des correspondances de Manosque et puis dans le cadre aussi de la transmission de l'œuvre de Jean Giono. On va poursuivre avec une autre invitée qui est juste à vos côtés.
Oui, que je connais bien.
Et que vous connaissez bien forcément. Puisqu'elle
qui a été une des protagonistes de la grande exposition du Mucem, laquelle je peux quand même dire que c'est le succès de cette exposition, hein, 71 000 visiteurs, a lancé tellement fort l'année Giono, et heureusement qu'on l'a lancé avec un an d'avance, sinon...
Ah oui, c'est pas tombé dans le confinement, donc passé, c'était parfait. Hein. C'était parfait.
À la fois Gallimard et Jean-François Chounier s'étaient mis d'accord pour la faire en 2019, la lancer en 2019, et là, ça a été vraiment un bonheur pour nous d'avoir cette anticipation. Et puis, on s'est connus, Clémentine, Emmanuel Lambert m'a fait connaître Clémentine, qui a fait une installation qui a été très remarquée et très marquante dans l'exposition autour de la bibliothèque de Jean Giono. Voilà.
Et elle est ici, mais on va parler d'autre chose que de cette exposition. Vous allez lui prêter votre micro, Jacques, s'il vous plaît. Elle est plasticienne, oulipienne et écrivaine. Elle vient de publier « Dehors la tempête » chez Grasset et elle est présente à plusieurs titres dans les correspondances 2020. Et c'est avec quelques mots inhabituels dans mon style d'animation que j'accueille Clémentine Mélois. Bonjour, envoûtante beauté. Ça va bien, Clémentine ?
Bonjour, mystérieuse créature.
C'est évidemment une citation de l'affiche de Clémentine, l'affiche des correspondances 2020. Une affiche qui est très dynamique, fantaisiste, qui n'a pas fait l'unanimité, vous le savez aussi, où vous, pour la première fois, on a rajouté du texte à une affiche. C'est assez rare pour un festival littéraire. C'est vous qui avez eu cette idée de rajouter du texte à cette affiche avec un style très, on va dire, un peu très italien des années 60, en quelque sorte, avec ce couple particulier.
Ça, c'est une référence à l'esthétique des romans photos. Les affiches des éditions précédentes avaient été faites par Charles Berberian, et je ne pouvais pas rivaliser avec lui pour ce qui était de la beauté, de l'élégance. Donc, j'ai fait de la fantaisie. Donc l'esthétique effectivement est discutable, c'est très kitsch, c'est très coloré, mais pour moi une affiche ça a vocation à être vue de loin et à marquer. Donc j'ai pris ça et je me suis amusée parce que pour beaucoup les correspondances, le milieu littéraire, la rentrée, c'est quelque chose un peu solennel, c'est quelque chose où on est un petit peu sérieux. Je me suis amusée justement à prendre l'esthétique des romans photos qui m'intéresse particulièrement, mais j'ai inversé, c'est la femme qui dit à l'homme bonjour en vous tant de créature. Si on peut replacer dans une phrase bonjour en vous tant de créature, je suis toujours contente. Donc voilà, c'était l'occasion.
Et ça termine par éblouissante, en plus. Donc ce sont des termes qu'on aime bien et qui vont bien dans le cadre aussi de ce festival. Dans ce festival, il y a plusieurs choses qui vous concernent. Clémentine, il y a évidemment l'exposition des 100 titres. C'est à la Maison des Jeunes, à Manosque, juste à l'entrée du festival et des soirées du festival. Il y a aussi votre participation avec Hervé Letellier, qu'on écoutera dans un instant aussi, sur le livre qui est paru publié chez Fayard, On n'y échappe pas, nous allons en parler. Et puis il y a votre livre Dehors la tempête, c'est paru chez Grasset, c'est un livre magnifique qui raconte votre rapport à la littérature et tout simplement au livre, le rapport au livre, la naissance de Clémentine au livre, qui a lieu à l'âge de 8 ans et demi quand elle gagne le concours Gallimard Jeunesse doté d'un magnétoscope, mais surtout de 365 livres, un par jour, pendant un an. Votre vocation était née.
Non, mais j'ai appris à lire à 6 ans au CP, hein, comme tout le monde. Mais non, effectivement, j'ai gagné un concours d'écriture, mais c'est marrant parce que, j'en parle parce que c'est intéressant parfois de... On se dit, s'il y a des mythologies fondatrices, j'y crois pas tant que ça. C'est une jolie histoire. J'aimais déjà beaucoup lire, j'étais dans une famille où on était très nourris. Par la lecture, il y avait des livres partout, mais néanmoins, je pense que c'est une image qui marque de recevoir, quand on est déjà une enfant qui aime lire, de recevoir des cartons entiers de livres, c'est quelque chose d'important. Donc, a posteriori, on peut se dire que quelque chose est né ce jour-là.
Vous les avez gardés ?
Je les ai gardés.
C'est bien, c'est une bonne chose.
C'est assez... Je dois dire que je suis assez fière de moi, parce que pendant les déménagements, ça pèse assez lourd.
Oui, c'est vrai. Et puis vous avez dû en avoir d'autres aussi, des livres.
Quelques-uns.
Et c'est pas fini. Alors, vous aimez aussi l'odeur du livre. Vous aimez la première phrase de l'aventure d'un roman. Vous citez des phrases de Flaubert, Proust, Gary, Camus, Claudel. Et puis vous aimez aussi les grands marins. Les grands marins. Et ça nous parle un petit peu aussi, un certain Ismaël. Mettons, hein, vous voyez ce que je veux dire, Martin Eden, Nelson, etc., l'imagination débridée et ce côté petite fille. Alors il y a un passage que je vais vous lire qui est assez intéressant, qui concerne l'alimentation. Alors vous ajoutez évidemment votre caractère très fantaisiste aussi à ce que vous dites, et vous allez voir, vous allez vous rendre compte. En hiver, à parfois manger trop de raclette et pas assez de légumes, j'ai peur d'attraper le scorbut, comme l'équipage de la Pinta, la Niña et la Santa Maria. Le programme national nutrition, santé, manger, bouger serait d'ailleurs plus convaincant si nous étions ainsi mis en garde. Mangez 5 fruits et légumes par jour, sinon vous perdrez vos dents et vos cheveux, puis vous mourrez comme l'équipage de Christophe Colomb. Le capitaine Cook, lui, donnait à son équipage de la choucroute et des fruits frais pour lutter contre cette maladie, mais peut-être ne serait-ce pas utile de le préciser dans le programme. Les gens comprendraient de travers et se mettraient à manger de la choucroute à tous les repas, ce qui n'est pas le propos. On voit bien, Clémentine, votre fantaisie, là.
Oui, effectivement. Comment dire non ? J'avais envie d'écrire un livre où on serait dans la tête d'un lecteur et où on suivrait les digressions et le moment où l'esprit se met à divaguer, au moment ce qui se passe quand on est en train de le lire un livre. Et donc j'ai pris le lecteur que j'avais sous la main, c'est-à-dire moi-même, mais je en racontant des anecdotes et en racontant tout ce qui se passe dans ma tête quand je lis des grands classiques, j'espère toucher à l'universel de la lecture. Et j'espère que c'est un livre qui parle à tous les amoureux de la lecture. Peut-être que tout le monde ne pense pas qu'ils vont attraper le scorbut s'ils ne mangent pas de fruits et légumes, mais je sais que tous les gens qui apprécient les romans d'aventure maritime dont je parle ont ressenti ça ou ont eu l'impression d'être embarqués sur le Pequod, dans les lisant Moby Dick. C'est la force de la littérature et c'était ça que j'avais envie d'évoquer, en fait.
Vous avez proposé cette idée à une agence de publicité, par exemple, pour tout simplement faire évoluer ce manger-bouger ?
Non, alors je fais pas dans la publicité, je suis artiste, vous savez, on est un peu en décalage avec ça, mais c'est dommage parce que ça aurait été une bonne idée.
Alors, vous aimez aussi, Clémentine, les listes. Vous aimez les énumérations, ainsi dites-vous, le monde est bien rangé. Donc ça c'est bien. Vous aimez aussi les recherches qui peuvent paraître insolites, comme le prix et la quantité d'alcool ingurgité par Maigret en une journée dans un roman de Simenon. Il a, selon vos calculs, bu pour 84 euros d'alcool divers, calva, whisky, bière et grog, car il est enrhumé, et ça lui fait un taux d'alcoolémie de 2,85 g dans le sang. C'est pourquoi il ne conduit pas. Et c'est pas un détail.
Non, non, 84 euros si il commandait dans un bar à l'Île-Dieu, parce que j'étais serveuse à l'Île-Dieu, donc c'est les prix de là-bas. Je pense qu'à Paris, il en aurait pour plus cher, beaucoup plus cher. Et non, non, il tient vraiment bien l'alcool, je pourrais pas le suivre, même une matinée, je pense que je m'écroulerais.
Mais, et en même temps, il faut pas monter avec lui en voiture. Hein.
Mais il a pas son permis, donc, il se fait toujours conduire, donc c'est, à mon avis, c'est pour ça. Moi, je propose des pistes de réflexion, après, on en fait ce qu'on en veut.
Alors justement, comme piste de réflexion, c'est un deuxième extrait que je vais lire. Je pioche un petit peu dans votre livre. Je rappelle, c'est « Dehors la tempête » chez Grasset. Et c'est dans le chapitre « Diversion » justement. C'est l'une des utilités de la lecture. « Je lis pour faire diversion, dites-vous. Détourner ma propre attention et essayer d'oublier un instant l'absurdité du monde. Tromper l'ennui, c'est la journée la plus longue du siècle, longue comme une réunion de travail quand le tour de table dure des heures et des heures et des heures. On ne voit pas le bout du tunnel, c'est le désert des Tartares, l'attente est insupportable, la pièce mal aérée sent le terrier de renard et le mauvais après-rasage, le mobilier de bureau est à pleurer de grisâtre administrative, on a des impatiences dans les jambes, mais hors de question d'aller faire un tour, nous sommes irrémédiablement captif. Le pire, c'est que les autres ont vraiment l'air d'y croire. Ce n'est pas possible, ils doivent faire semblant. Est-ce qu'ils y croient vraiment? Personne ne semble douter un instant de l'absolue nécessité de ce que nous sommes en train de faire. Perplexe, on scrute les regards sans parvenir à y déceler la moindre lueur d'ironie, le moindre signe d'un jugement critique, d'une distance amusée. Ça, c'est la diversion. Et puis, il y a une petite suite aussi que j'aime bien, toujours dans ce paragraphe de la diversion. Je voudrais qu'on m'emporte ailleurs, très loin d'ici, dans un style bien tourné. Je voudrais qu'on me raconte une histoire. Je voudrais de belles phrases et des baisers enflammés. Je voudrais un feu de cheminée. Je voudrais des chaussons fourrés et du suspense. Je voudrais de l'aventure. Je voudrais du doute, de l'introspection et un vent chargé d'embrun. Du crépuscule et de la mousse humide, de la passion et du mystère. Je voudrais des pirates et des dragons. Je voudrais un plancher qui craque, une étoffe qui bruisse. Je voudrais un drame terrible et un dénouement superbe. Je voudrais de l'exaltation. Je voudrais des larmes et que tout ça sente l'encre, l'océan, la sueur, le sous-bois et la fumée. Donnez-moi tout de suite un livre et à la rigueur une biscotte pour grignoter avec. La biscotte, ça va avec le livre, évidemment, Clémentine.
J'aime beaucoup cette phrase de François Truffaut qui dit à Jean-Pierre Léo, il n'y a pas d'embouteillage dans les films. Un film, c'est comme un train qui file dans la nuit. Et c'est la même chose pour les livres. Il n'y a pas de réunion emmerdante. Il n'y a pas de facture à régler. Il n'y a pas d'emmerdement. Et les histoires dans les livres, c'est des trains qui filent dans la nuit. Et c'était un petit peu ça que je voulais raconter à travers ça.
Il y a une part des trains et de la gare dans votre livre d'ailleurs, beaucoup de choses qui se passent dans des gares et au détour d'une évocation d'Italo Calvin, aussi par une nuit d'hiver un voyageur.
Vous le dites bien.
Le temps qui passe, comment ?
Vous le dites bien.
Italo Calvino. Et donc, si par une nuit d'hiver un voyageur, un jour on croise son reflet dans une vitre et l'on croit reconnaître sa mère. On n'est plus la personne qu'on croyait être. On ne s'est pas vu changer. Le train du temps est passé dans la gare de la vie, comme dirait le poète. C'est bien dit. Clémentine, il y a un côté poétique chez vous aussi ?
Oh bah, c'est ce genre de poésie, le train de la vie est passé. C'est quoi ? Je ne sais même plus ce que j'ai écrit. Il y a un peu de second degré dans ma poésie.
Le train du temps est passé.
Le train du temps est passé dans la...
C'est beau, hein ?
Non, c'est beau. Je suis tellement émue que j'arrive même pas à me redire. Énorme. Merci Hervé, ça me fait plaisir.
Il va vous donner un petit coup de main, Hervé.
Je suis assis sur le banc de la vie et je regarde passer les passants du temps. Ça marche avec tout, en fait. Je suis assis dans la cafétéria de la vie et je mange le sandwich du temps. Enfin, vous voyez ça.
Alors, quand on dit ça marche, justement, le verbe marcher prouve quand même que c'est pas immobile. Et en même temps, c'est curieux. Il faut faire très attention. Vous adorez les premières phrases, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, il y a quelques.
Je les adore pas particulièrement, mais je pense que les Inkipit, on s'en souvient. Et c'est des. Longtemps je me suis couchée de bonne heure. On peut ne jamais avoir relu Proust, puisqu'il paraît que Proust se relit, mais, plutôt que se lit, mais tout le monde le connaît.
C'était à Mégara, par exemple, aussi.
Au bourg de Carthage, évidemment.
Et oui,
ça devient mythique.
Et aujourd'hui, ma mère est morte, etc.
Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais plus.
Des tas de phrases qui font partie de notre héritage aussi littéraire. Vous avez un rapport aussi qui est un rapport physique avec le livre. Dès les préliminaires de votre livre, vous le dites. D'abord, j'ouvre le livre en grand et je colle mon nez au milieu des pages pour les respirer. Chaque édition a son identité olfactive très singulière, faite d'encre grasse, de papier et de moisissure. Mes souvenirs de lecture sont indissociables de l'odeur des livres. L'île au trésor a son odeur de foin rance. Le Seigneur des Anneaux a son odeur de grenier chaud. 20 000 lieues sous les mers a son odeur de biscuit goudron. Et lorsqu'il m'est arrivé de les relire dans une autre édition, c'est comme si quelque chose clochait, comme s'il manquait un truc. Comme un café servi dans un verre à eau ou du vin dans une tasse à thé. Ayant toutefois conscience de la bizarrerie de cette manie, je fais en sorte que personne n'en soit témoin. La littérature et la lecture, c'est un acte individuel et singulier.
Individuel, mais qu'on peut partager. On peut partager l'émotion qu'on ressent et les souvenirs. Et c'est au contraire quelque chose d'extrêmement... C'est pas une aventure personnelle, non, je crois pas. D'ailleurs, c'est ce dont on est en train de parler aujourd'hui. C'est pourquoi il y a les correspondances. C'est pour ça qu'on en parle, qu'on en discute. Non, non, je pense que c'est une expérience universelle.
Et donc, vous avez déjà bu du vin dans une tasse à thé ?
Ouais, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Ça me perturbe beaucoup.
Avec vous et Clémentine Mélois, vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes oulipienne, autrement dit l'ouvroir de littérature potentielle. Et avec vous, un de vos collègues oulipiens et un oulipien de premier plan, c'est Hervé Letellier. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir ici même. Vous avez écrit, vous publiez dans votre actualité l'Anomalie, mais surtout vous avez écrit avec Clémentine Mélois qui nous a fait une magnifique couverture d'un livre très étonnant, ça s'appelle... On n'y échappe pas, c'est paru chez Fayard. C'est tout simplement un livre de 4 chapitres d'un roman commencé par un certain Boris Vian et inachevé. Les membres de l'Oulipo se sont chargés d'inventer une suite. C'est plutôt réussi, mais on pourrait cependant penser que remplacer Vian, c'est prétentieux et vaniteux.
Oui, mais en l'occurrence, on ne remplaçait pas Vian. C'est ça l'avantage de la chose. On nous présentait quelque chose qui était ce que faisait Vian, qui était lui-même un pasticheur, qui était quelque chose qui s'apparentait à du Vernon Sullivan. Donc on ne nous a pas confié le soin de faire une sorte de deuxième arrache-cœur ou de deuxième écume des jours ou automne à Pékin, mais plutôt de travailler sur un pastiche et donc de faire ce qu'on peut appeler un pastiche de pastiche, c'est-à-dire un livre de Vernon Sullivan, qu'aurait pu écrire Vernon Sullivan, qui est donc le pseudonyme que prenait Vian lorsqu'il travaillait au Scorpion. Et c'est là-dedans qu'on s'est engagé, c'est-à-dire poursuivre un projet qui était un projet avant tout de romans policiers noirs des années 50, que c'est un livre qui se trouve plutôt dans la lignée de Mickey Spillane et autres, et c'est ça qu'on s'est engagé à faire.
Comment est-ce que vous avez procédé avec plusieurs plumes ? Comment est-ce que vous avez créé un comité de rédaction pour On n'y échappe
Alors,
pas ?
L'Oulipo étant une organisation extrêmement structurée, nous avons fait une co-commission. Cette co-commission comptait 6 membres, dont Clémentine et moi étions, et qui avons, à partir des 4 premiers chapitres, et d'un synopsis, parce que Boris Vian avait laissé un synopsis, on s'est engagé à suivre intégralement le synopsis, à ne rien changer aux 4 chapitres de Vian, bien que Fayard et les héritiers Vian, ce qu'on appelle la cohérie Vian, nous en aient donné l'autorisation. On est resté sur ces 4 premiers chapitres intégralement, et on a poursuivi. Voilà, en enrichissant beaucoup, beaucoup, beaucoup le synopsis, ce qui était une nécessité par rapport à ce qu'on avait au départ. Chacun d'entre nous ensuite a écrit un chapitre.
Deux ou trois chapitres.
Voilà, en tout, je crois qu'il y a 18 chapitres, 19 chapitres, je ne sais plus exactement. Et puis après on a relu et on était catastrophés, on s'est dit « Oh, ça ne marche pas du tout !» Voilà, et donc on a repris. On a pendant 2 mois et demi, on a tout réécrit pour que ça fasse quand même un livre extrêmement fluide, un livre qui est vraiment dans la lignée des polars de l'époque, qui obéissent à une certain nombre de règles. On s'est fixé des logiques qui sont la présence des musiques de Vian, la présence de la guerre de Corée qui est très centrale, et puis du machisme. Clémentine a insisté pour le machisme. Voilà, qui était contextuel, qui était de l'époque, donc sous son contrôle, un certain machisme a été insufflé dans toutes les pages du Vian. C'est-à-dire que les filles, par exemple, sont rembourrées aux bons endroits, voilà. Enfin, je passe sur les détails des choses, mais enfin, c'est ça l'idée, quoi.
C'est un livre, effectivement, qui est réussi, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. C'est réussi parce que ça se lit de bout en bout. On commence par Vian, on finit par l'Oulipo, pourquoi pas. Et en même temps, c'est une histoire relativement sombre, mais à la Vian, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnages, il y a du drame également. L'histoire, c'est l'histoire de Frank Bolton, qui est de retour de la guerre de Corée, vous l'avez dit, il est handicapé. Il manque sa main gauche. La main gauche qui est en fer.
Elle est en couverture.
Elle est en couverture en noir sur du rouge, en plus. C'est bien vu. C'est presque scandalien d'ailleurs. Mais bref, une série de meurtres de femmes horriblement mutilées à Black River, c'est sa ville. Il les a fréquentées de très très près, on peut dire. Sa famille, Sally, sa belle-sœur, est veuve de son frère. Et puis, il y a aussi Narcissus, le détective Carmen, sa maîtresse. Frank était un tombeur quand il habitait Black River. Et l'hécatombe se poursuit. La shérif qui enquête sur le meurtrier en série, c'est une ex aussi de Frank. Enfin, bref, on a beaucoup de choses. Et puis, on a beaucoup d'humour dans ce livre. Par exemple, au niveau du style, Frank se retrouve à la maison et suite à un mensonge de Narcissus, il y a Sally, donc sa belle-sœur, qui le gifle fortement, puis un peu plus tard sa mère, Vénice, et Frank qui dit elle aurait pu au moins changer de joue. Donc déjà ça c'est assez curieux. Et puis une autre citation, personne ne répond, il est au téléphone et puis il pense à voix haute, l'ennui avec le téléphone c'est qu'on ne peut pas flanquer son poing dans la gueule des gens. Ça c'est du Vian aussi quelque part, Clémentine.
Quoi?
C'est moi qui ai écrit ça?
C'est moi?
Oui,
ah
bon, c'est vous.
Ah mais elle aurait pu changer de joue, c'est vous, je me souviens.
Ça c'est moi, oui.
Ah ouais. Donc, ah oui.
Bon. Juste, je peux me permettre de faire une remarque?
Oui.
On a été, la Coëri Vian a sollicité, a contacté l'Oulipo pour nous proposer de terminer ce livre. C'était assez intimidant. Mais la raison en est historique, c'est que Boris Vian est mort en 59, un an avant la création de l'Oulipo, et qu'il aurait fait très certainement partie des membres fondateurs. Donc, d'une certaine façon, c'est un peu une histoire familiale.
Il y a une filiation.
Voilà.
Ouais. Hervé, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Sur ce Vian, mais je pourrais parler pendant des heures de ce travail.
Et on n'a pas le temps.
Admirable.
Hein. Bon, malheureusement.
Alors non. Alors finalement non.
Mais puisqu'on est effectivement dans une période où on fête le centenaire de la naissance de Boris Vian, qui est mort à 39 ans, qui était aussi un excellent musicien, il ne faut pas l'oublier, un excellent jazzman, et qui savait qu'il allait mourir assez tôt, relisez Vian, lisez-le.
Alors ce que je peux ajouter quand même là-dessus, et ce qui me paraît important, c'est que Vian est une victime tout de même des éditeurs. C'est-à-dire que c'est quand même un homme qui a arrêté d'écrire en 1953 parce que tous ses bouquins étaient refusés. Et c'est vraiment le drame en fait de la littérature et des amoureux de Vian aujourd'hui, c'est qu'il a été découragé par un certain nombre de refus. Et c'est vraiment dommage parce que c'est évidemment quelqu'un qui avait une carrière à faire dans cet univers-là et qui s'est, à partir de 1953, réorienté entièrement vers la musique. Alors, tous les gens qui aiment la musique et Vian sont extrêmement heureux, et tous ceux qui aiment Vian littérateur sont extrêmement tristes, parce qu'évidemment, il s'est arrêté d'écrire pendant 6 ans jusqu'à sa mort.
Alors, je ne vais pas vous poser la question des droits d'auteur pour savoir si ça va à l'Oulipo, à vous-même ou à la Coëri Vian.
C'est moi, uniquement moi.
Voilà. Alors justement, Hervé, vous allez garder la parole. Vous savez, j'ai une habitude ici même, c'est d'inviter des auteurs, mais de lire leurs livres, comme je viens de le faire avec Clémentine, comme je le ferai tout à l'heure avec Colombe Bonsen. Je n'ai pas lu, malheureusement, L'Anomalie qui est paru chez Grasset.
Non,
je le ferai plus tard.
On m'a parlé de vous, on m'a dit que quelqu'un dans ce festival festival n'avait pas lu ce livre.
Oui.
Et ça, je le cherche depuis à peu près 2 jours.
Ça y est, c'est fait. Ouais, c'est fait. Je suis désolé. Mais par contre, je veux bien vous demander, si vous le souhaitez, Hervé Le Tellier, de nous parler de votre livre qui, je crois, a déjà de bonnes relations presse au niveau national.
Bon, c'est un livre qui, à deux sujets principaux, et je vais laisser ensuite les lecteurs potentiels imaginer ce que ça veut dire, ce que je vais dire. La première question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a de réel dans le monde dans lequel nous évoluons. C'est une première question que je voulais me poser, et proposer à travers un livre un peu bizarre, avec de nombreux personnages, beaucoup, pas trop, hein, beaucoup de personnages, proposer ce qu'on appelle une expérience de pensée, c'est-à-dire se projeter dans une idée qui est accepter un phénomène et puis se dire qu'est-ce que ça veut dire pour moi si ce phénomène était réel. Et puis la deuxième question que j'avais envie de poser dans ce livre, c'est la question de la confrontation à soi, mais vraiment à soi, c'est-à-dire d'imaginer qu'on est face à soi-même, mais pas face à un miroir, hein, face à quelqu'un qui est exactement nous, et comment est-ce qu'on réagirait face à cette personne, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier, qu'est-ce qu'on est prêt à négocier, est-ce qu'on est disposé à accepter qu'il survive à notre propre existence, ou est-ce qu'on est prêt à aller plus loin et à le supprimer pour être seul à être soi. Voilà, et c'est cette proposition, disons, à la fois d'imagination et littéraire que j'avais envie de proposer au lecteur, avec l'idée d'un livre assez cinématographique, un livre assez qui à chaque fois, dont chacun des chapitres est vraiment extrêmement dans un univers d'images, avec cet enjeu qui est que l'image ne soit pas quelque chose qui arrête a priori l'écriture. Au contraire, que l'écriture vienne supplanter la puissance évocatrice d'une image possible, d'une scène à chaque fois. Chacun des chapitres, c'est vraiment une scène. Donc je voulais éviter que ça soit trop une scène en essayant de travailler beaucoup les genres. Et donc c'est aussi un roman sur les genres. Voilà.
Alors, vous le savez, je l'ai dit, mais je le répète, par honnêteté intellectuelle, je ne rebondirai pas sur ce que vous dites, si ce n'est que je lirai L'Anomalie, qui est paru chez Grasset.
C'est un livre chez Gallimard.
C'est un livre qui ne se lâche plus. Surtout, oui, mais ici à Manos, vous savez, Grasset, Gallimard, hein, avec les aventures de Giono, on confond un petit peu tout ça. Donc, pardon pour ce lapsus, et en tout cas, merci Hervé Le Tellier d'avoir été des nôtres. Enfin, dernier invité, et pas des moindres, là aussi on est en pleine fantaisie, et c'est un livre qui m'a aussi beaucoup plu. C'est le livre de Colombe Bonsaine, Vue mère, qui est paru chez Zoé. Bonjour Colombe.
Bonjour.
Merci d'être notre invité. C'est un livre court, 127 pages, qui est une plongée dans le monde de l'entreprise, en l'occurrence une société de communication, de marketing, on ne sait pas trop, et ça n'a pas d'importance de toute façon. Ils travaillent tous dans une tour de plusieurs étages, comme il en existe à la Défense, par exemple, et on y croise des personnages hétéroclites aux manies et habitudes établies, mais on est à l'heure d'un bouleversement. Les chefs d'entreprise, Stéphane et Léa, vont vendre leur boîte et ils doivent l'annoncer à leurs employés. Moment délicat. Et le livre démarre. Mais pas la voiture de Stéphane, qui va rester coincé toute la journée, ne va pas contacter ses collègues et va les imaginer arrivant successivement au boulot pour une journée comme une autre. C'est la situation de départ, Colombe.
Oui, c'est un départ à l'arrêt. C'est un livre qui commence de manière immobile. Alors que ce qu'il décrit précisément, c'est une journée de travail où la mécanique des rôles des uns et des autres les porte vers une sorte de mouvement perpétuel. Or voilà, là mon moteur, si je puis dire, a été d'arrêter le moteur, de ne pas le faire démarrer. Et le personnage principal, qui est un des patrons de l'entreprise dans laquelle le lecteur va être plongé, ne démarre pas, voilà, n'active pas le bouton start.
Et il ne s'en inquiète pas trop quand même aussi. En même temps, il veut pas, il imagine. Et donc là, on pense à, par exemple, on va penser à Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle, avec ce personnage joué par Maurice Ronet qui est coincé dans son ascenseur.
C'est marrant parce que hier soir, j'ai parlé de Louis Malle et du Feu Follet. J'ai cherché pendant une heure la référence de ce film et vous me reparlez de Louis Malle. Ça fera rire ceux qui étaient avec moi hier soir parce qu'on cherchait, mais comment s'appelle l'acteur Maurice Ronet, voilà.
Maurice Ronet, et puis
Je suis contente d'en entendre parler.
La musique, si on parlait de Boris Vian en tant que musicien, avec la superbe musique de Miles Davis aussi. Et puis, on pense aussi à autre chose, beaucoup plus actuelle. On pense à la série Caméra Café de M6, parce que on sent qu'il y a ce moment particulier convivial et où tous les gens se réunissent. Et là, on a les personnalités exacerbées quoi, de toute cette équipe.
C'est un roman fait d'archétypes volontaires, que ce soit les personnages ou les moments qui rythment une journée de travail. Donc, en effet, que ce soit la cantine, enfin le restaurant, comme je l'appelle de manière grossièrement volontairement ridicule, et évidemment la cafétéria, le café, la réunion. Tout à l'heure, j'entendais le passage que vous lisiez du livre de Clémentine où elle voulait s'échapper en réunion. Elle disait, mais est-ce que tous ces gens autour de la table, autour de ce mobilier grisâtre que moi je me plais à décrire par le menu, tous ces gens font-ils semblant? Est-ce qu'ils y croient? Est-ce que voilà? Et moi, mon roman décrit ces rôles-là. Voilà, et c'est avec un grand ordonnateur absent dans sa voiture et toutes ces petites marionnettes qu'il dirigerait à l'envi.
Alors, on parlera tout à l'heure de la symbolique des noms qui sont magnifiques dans votre livre, Colombe, je ne vais pas vous l'apprendre. Je prononce plus particulièrement le « restaurant ». Parce que sinon, vous l'avez prononcé très vite, on a oublié qu'il y a un jeu de mots là-dedans, parce qu'ils sont dans une tour où vous imaginez des centaines de salariés tous cravatés, des femmes en tailleur, etc. Enfin bref, un monde très particulier. Comment vous le connaissez, ce monde, Colombe? Vous l'avez imaginé ou vous l'avez côtoyé?
J'ai travaillé dans l'édition.
Oui, d'accord.
Et par ailleurs, non, j'ai moi-même travaillé dans l'édition, dans une tour, où les logiques, quel que soit le milieu, sont les mêmes. Donc j'ai pu l'observer en y participant. Et puis je me suis aussi beaucoup documentée. J'ai vu pas mal de films, des séries. J'ai lu beaucoup de livres qui décrivent ces milieux, aussi bien des romans que des essais. Et j'ai lu aussi des rapports. J'ai eu quelques complices, l'un dans une grande école de commerce et qui a commencé lui-même, jeune homme, à travailler dans ce qu'on pourrait appeler communément une start-up, et m'a décrit un petit peu son quotidien. Et puis j'ai lu aussi des rapports, ce qu'on appelle des audits, enfin voilà, qui ont été des sources passionnantes pour mesurer la manière dont est employé le langage.
Avec également ce personnage particulier qui est Stéphane, donc le grand ordonnateur de la société, et qui est confiné, on peut dire
c'était pas prévu. Hein,
dans sa voiture, magnifique voiture, mais il a pas envie de téléphoner, quoi, il a pas envie, et tout compte fait, il goûte un petit peu à ce temps qui passe. Et je vais vous lire un extrait.
Comme les trains.
Vous allez voir, oui, un petit peu comme les trains chez Clémentine. Alors, c'est un extrait de votre livre, Colombe. Finalement, Stéphane constate que son absence crée peu d'agitation. On ne se soucie guère de lui dans l'équipe. Ta gueule, Bart. On reviendra à ce personnage de Bart tout à l'heure. Stéphane philosophe sur les notions d'entreprise, de collectivité, de complicité. En vient à interroger ce qui l'empêche ce matin, ce qui le retient. Qu'est-ce qu'un homme qui ne démarre pas? Pas son genre, pas du tout. Stéphane incarne le mouvement, la vie, ou au pas de course, l'activité avant tout. Il ne se laisse ni dépasser, ni submerger, aucune paralysie affective, sentimentale, familiale, aucune entrave. Il gère, il avance, comme le temps. Mazette, il est quasiment midi. Là, on retombe les pieds sur terre. Il est en train de philosopher, en fait, dans sa voiture.
Moi, j'entends les questions que la romancière se posait à ce moment-là. C'est-à-dire, est-ce que mon personnage arrêté va se poser des questions, parce que, disons que ce n'est pas son genre. C'est ce qui est décrit ici. On pourrait dire que c'est un personnage de winner, pour utiliser des mots à la mode, qui en effet a géré sa vie comme on gère un business, et donc tout est organisé, tout fonctionne, il a un bel appartement,
il imagine très bien d'ailleurs la chronologie de la journée au boulot avec un tel qui arrive à telle heure, qui dira telle chose.
Tout est réglé, c'est comme du papier à musique.
Sans aucune surprise, en plus.
Voilà, c'est ça, c'est une sorte de vie sans surprise. Et disons que le fait de ne pas démarrer le surprend. C'est lui qui est surpris, mais qu'est-ce qui m'arrive, enfin. Et donc, il se pose des questions qui peuvent paraître assez simples, philosophiquement, assez absurdes, mais lui, il est saisi et puis il est pétrifié, de fait, il est pétrifié.
Alors, on plonge dans, évidemment, cette entreprise assez, assez particulière, avec quelques scènes drôles. La drague lourdingue, la jalousie qui plane, l'inquiétude d'Elsa. Elsa, c'est sa
partenaire,
co-présidente de cette opération. Le séminaire d'entreprise, là aussi, il y a une évocation assez croquignolesque. Le cérémonial des réunions quotidiennes, mais aussi beaucoup, beaucoup de choses. La symbolique, notamment, des noms. Alors là, évidemment, il faut jeter un œil dans votre livre parce que l'orthographe nous aide beaucoup à comprendre certaines choses. Alors Stéphane, par exemple, lui, son nom de famille, c'est Bouquet. B-O-U-K-E. On suppose qu'il est très occupé, bien sûr. Sa co-manageuse et partenaire, c'est Elsa Partner. Les Anglais pourraient le prononcer peut-être un petit peu différemment. Il y a aussi la responsable de la communication client, une certaine Maria Carré. Lucien Perso, lui, est responsable com, il est en charge des outils et des interfaces, mais également des consultants. Charlotte Brûle-Out, Brûle en anglais, ça se dit burn, c'est bien ça. Mm-hmm. Et puis Blaise Desillusions, et puis mes préférés, évidemment, le rédacteur contenu, Guy Bécédère, et surtout le rédacteur correcteur, Bart Elbaï, ou Elbi. Comme vous voulez.
Comme vous voudrez.
Dans un autre siècle, on aurait dit scribe. D'ailleurs, il le dit à un moment. D'ailleurs, quant à Barthes, il préférera toujours ne pas. C'est à la page 114. Quelle imagination, Colombe.
Ce sont des plaisanteries qui font référence à la fois à ce que l'on pourrait appeler la pop culture, Maria Carré, et à évidemment des références littéraires où je rejoins mes collègues face à moi avec ce jeu passionné pour les lettres et voilà, ce sont des plaisanteries. Cela étant dit, voyez, alors vous dites Stéphane, moi dans ma tête je le dis Stéphane, mais ça il appartient au lecteur de le prononcer comme qu'il le veut.
Stéphane Bouquet, c'est
alors,
pas mal quand
Stéphane
même.
Bouquet, voyez, vous dites comme beaucoup d'ailleurs m'ont dit, il est bouquet parce que il a plein de choses à faire. Et alors, moi c'était pas du tout ça. Stéphane, pendant l'écriture du roman, c'était l'absent, puisqu'il s'agissait de ça aussi, de comprendre si une journée de bureau se déroulait exactement de la même manière, s'il manque quelqu'un. C'est aussi un livre sur cette question-là, s'il manque quelqu'un. Non pas quelqu'un en plus, comme dans le livre d'Hervé, si on est face à soi-même, là, on enlève quelqu'un. Et donc, Stéphane, pour moi, s'appelait l'absent. Pour aller plus vite, je l'écrivais l'abs. ABS, voiture, enfin vous voyez, une espèce de petite cascade, voilà, je l'ai enfermé dans sa voiture, mon ABS, et à un moment, il a fallu le nommer, je ne pouvais pas lui garder ce nom d'absent, et l'absent, pour moi, c'est parce que ça faisait référence à Mallarmé, je dis la rose absente de tout bouquet. C'était ça, mon petit verre qui me trottait dans la tête, et si bien que, voilà, je me suis dit que j'allais l'appeler bouquet. C'est lui l'absent de tout bouquet. Et alors là, après, je me suis dit, je vais l'appeler, si je l'appelle bouquet, je peux le prénommer Stéphane. Évidemment, désorthographiant, j'invente un mot au passage, le Stéphane qui s'écrit là, S-T-E-F-A-N. Et figurez-vous que Stéphane Bouquet est un poète. C'est un poète contemporain, Stéphane Bouquet. Il existe, mais je le connais, mais c'est un hasard, voilà.
Et sa voiture fonctionne, elle.
Stéphane Bouquet, je crois qu'il n'a pas de voiture, il se déplace à vélo.
Il faudra enquêter, il faudra voir.
On lui en parlera.
Alors, il y a d'autres personnages aussi dans votre livre. Il y a par exemple ce personnage de stagiaire asexué ou bisexué, comme vous voulez, c'est machin-machine, pour qui l'écriture inclusive est absolument nécessaire. Et en plus, il ou elle est belge. Machin Machine X. Et Françoise, alors Françoise, c'est la secrétaire de direction. Secrétaire de direction fidèle, c'est l'éminence grise en quelque sorte des patrons. Elle est la seule au courant de la vente de la société, mais elle s'inquiète, figurez-vous, parce que son boss n'est pas là, à l'heure du déjeuner. Alors par exemple, je vais vous lire un petit extrait, hein, justement, où elle s'inquiète, Françoise. Une image angoissante, terrible, la gagne, monte en elle, elle se rend au coin cuisine, remplit une grande tasse d'eau, la place dans le micro-ondes, tourne le minuteur vers le chiffre 2, appuie sur le bouton de démarrage, un bourdonnement vient s'ajouter à celui des ordinateurs en veille. Françoise contemple la tasse qui tourne sous une lumière blanche, la voit faire un tour, puis deux sur le plateau de verre. Elle pense à une tête qui tourne. La tasse continue sa circonvolution, tandis qu'en Françoise, l'image se précise. Les contours s'en dessinent désormais aussi précis que s'ils étaient sous la lumière blanche. À la place de la tasse, c'est le corps de Stéphane, ou Stéphane, comme vous voulez, frappé d'un malaise. La sonnerie du micro-ondes retentit et le corps de Stéphane, choit sur le carrelage de sa cuisine, victime d'une crise que la solitude rend mortelle, puisque personne n'est là pour recueillir la masse étendue sur le sol, personne pour appeler les secours et maintenir le temps de leur arrivée dans un filet de voix ému. Et grâce à des gestes appris lors d'un stage offert par la tour, la vie qui essaie de s'en échapper devant le micro-ondes, Françoise susurre ces mots rassurants. « Allez, allez, faut pas nous lâcher, vous pouvez pas nous faire ça, on a besoin de vous. » Voilà, Françoise donc qui s'inquiète de son
Françoise,
boss qui n'est pas là.
Oui, c'est la figure très maternelle qui existe souvent dans les bureaux, à laquelle on se confie, à la fois les employés se confient à elle, mais aussi les patrons. Et il y a une autre scène dans le roman où Stéphane se tâche et il imagine Françoise débarquant avec son petit torchon, allez, allez, elle dit tout le temps, allez, allez, j'ai des rictus comme ça qui reviennent, qui sont des expressions qui marquent aussi les personnages. Et voilà, elle est tout le temps là et elle tamponne le pantalon et on a bien besoin d'elle.
On sent bien dans votre écriture, Colombe, le plaisir du jeu de mots et des pastiches.
Oui, c'est vrai, mais c'est un livre pour lequel j'ai vraiment travaillé à l'écriture pour que à la fois paraisse le langage homogène, codifié du monde de l'entreprise, c'est-à-dire de neutralisation du sens et l'efficacité et la rapidité, voilà. Donc ça a été et la précision. Donc c'est resserré. C'est peut-être aussi pour ça que c'est court, parce que quelque chose de rapide, d'assez dense. Et j'ai tenu à essayer de le faire rentrer ça aussi dans les phrases, ouais.
Alors, autre chose qui est dans votre livre, par exemple, les noms des campagnes de la société, elles portent aussi des noms bien choisis. Alors, Vue Mer, c'est le titre du livre qui en est un. Il y a aussi Jungle, Plaine, Montagne, Lac, Pâturage, ou encore un personnage aussi qui demande à un collègue de lui ramener un B9 de la machine à café. On devine le code d'un sandwich poulet mayo, cheese wrap ou jambon beurre, bref. Et quant au mot métier de consultant, alors là c'est le mot peut-être le plus creux de notre langue française, il emprunte à la fois la médecine et en même temps il désigne des mercenaires, il ne faut pas l'oublier, et donc je ne veux pas oublier non plus. Alors ça c'est un élément essentiel de votre livre aussi, Colombe Bonsaine, c'est les poèmes d'ascenseur. C'est-à-dire qu'on s'embête tellement dans l'ascenseur pour monter jusqu'à ce 8e étage ou 5e étage.
C'est un lieu d'introspection, l'ascenseur. On
attend,
réfléchit.
Voilà, on réfléchit et puis on écrit. Alors, par exemple, Guy Bécéder, je vous rappelle, il est consultant. Lui, c'est la communication. Hein. Il écrit « Le travail contribue-t-il à unir les hommes ou à les diviser ?» C'est intéressant quand même comme...
C'est un sujet de philosophie donné à des élèves de terminale, je crois, en bac, je ne me souviens plus de quelle section.
Une réalité donc. Mm-hmm. Et puis il y a Maria Carré, qui n'est pas une chanteuse de R&B ou de pop. Elle dit un vrai poème, là, cette fois-ci. Ces visages tristes, mines de néon, de positives secousses, besoin ont. Et comme le dit la chanson, il faut savoir parfois toucher le fond pour pouvoir rebondir mieux, tes adieux. La cérémonie en une heure ou deux, ces beaux discours, nombre selon devis, des parents, des collègues, des amis, reniflements et pleurs, tu entendras, sens et goût à la vie, retrouveras. Facile à trouver un slogan, hashtag, on devrait mourir plus souvent.
Les poèmes d'ascenseur m'est venue grâce à mon complice dont je parlais dans une école de commerce où il m'a appris que on demandait aux étudiants un exercice qui s'appelle le elevator pitch elevator, je sais même plus, et où il s'agit d'apprendre à convaincre un potentiel investisseur le temps d'un trajet d'ascenseur. Donc voilà, les étudiants sont invités à présenter une idée sur laquelle on pourrait avoir envie d'investir parce qu'on a croisé le bon type dans l'ascenseur. Voilà, j'avais très envie que des scènes aient lieu dans l'ascenseur, dans une tour. Ça me semble un lieu intéressant à regarder, souvent embarrassant, on n'aime pas trop se retrouver dans l'ascenseur avec quelqu'un, etc. Donc voilà, ce sont des sortes d'échappées belles de mes personnages. Et il arrive, là, en l'occurrence, celui que vous venez de lire, Maria Carré, a une idée et elle en fait un poème pour savoir si, est-ce qu'on pourrait investir sur cette idée-là de commander un discours d'enterrement quand ça va pas. Si finalement on entendait quelqu'un faire son discours d'enterrement, peut-être qu'en effet ça nous remettrait en forme. Alors, tant que ce sont des éloges.
Le dernier poème d'ascenseur, et là c'est un pitch elevator carrément, c'est celui d'Elsa Partener qui est magnifique aussi. Alors, il est très simple, hein, c'est épervier, étourneau, tourne-d'eau, je ne connais pas le nom des oiseaux. Voilà, on va rester sur cette...
Ça, c'est parce que je m'appelle Colombe.
Sur cette note très, très particulière. Colombe Bonsen, vous avez pris un plaisir énorme à écrire ça, mais nous, on prend beaucoup de plaisir à le lire aussi. Donc, le plaisir est partagé, et c'est vraiment 127 pages, je l'ai dit, je le répète, c'est aux éditions Zoé, Colombe Bonsen, Vumer. Votre actualité dans le cadre des correspondances
cet après-midi, avec Clémentine d'ailleurs, nous ferons la sieste ensemble, et les musiciens, et je discute demain avec Fab Caro, auteur de BD et roman, sur la place de l'Hôtel de Ville.
Et c'est à 16h30, très exactement. Et votre activité, vous, Clémentine, mise à part la sieste, tout à l'heure?
Mon activité...
Alors, dans le cadre des correspondances?
J'envisageais d'aller manger un sandwich, là, à midi.
Pardon. C'est bien, c'est bien.
B9, voilà, c'est ça. Alors, il y a la sieste littéraire tout à l'heure. Puis à 16h30, Sophie Joubert et moi parlerons de Dehors la tempête. Et demain à 11h, avec Hervé Letellier sur la place, mais je ne sais plus laquelle, on va parler du Boris Vian pour un apéro littéraire.
Avec Hervé, vous allez être sur la place...
Herbès, il me semble.
À l'hôtel d'Herbès.
Voilà. Place Herbès, on dirait un contrepaix.
Clémentine, vous avez l'habitude, et Colombe également, des correspondances de Manosque. Hervé, c'est la première fois que vous venez ici ou...
Non.
Vous êtes habitué aussi?
Habitué, je ne dirais pas, parce que je serais habitué si je sortais un livre tous les ans, mais hélas, il me faut 2-3 ans à chaque fois pour écrire un nouveau livre. Donc ça doit faire, je crois, 3 ans, je ne suis pas venu, 2 ans.
2-3
ans, oui.
En tout cas, vous avez de la chance. Et puis là, pour l'instant, il y a du soleil, donc on va en profiter. La journée s'annonce bien. Merci à tous les trois d'avoir été mes invités. Puis merci à Jacques Ménie aussi qui est parti à l'instant. Je remercie aussi notre ami Olivier Mouly qui est à la console et qui a sonorisé cette rencontre. Je vous donne rendez-vous, chers amis auditeurs, à demain, 11h, avec d'autres écrivains et certainement d'autres éclats de rire, on l'espère aussi, notamment avec François Bonne, ça va pas être triste. Merci encore Olivier, bonne journée à tous, à demain.
À demain François.